les escrocs, les plus énigmatiques de tous les criminels. Ces menteurs experts et ces manipulateurs chevronnés utilisent leur charme enivrant pour capitaliser sur le trait humain le plus précieux, la confiance, afin de gagner de l'argent et de ravager des vies. Rejoignez-nous pour explorer la vie et l'esprit de certains des escrocs les plus célèbres au monde, en exposant leurs crimes choquants et leur psychologie tordue. Et comment leurs cruels mensonges les ont conduits à leur perte. Dans cette émission, l'escroc qui a attendu son heure et patiemment utilisé l'amour comme arme pour soutirer un demi-million de livres à une femme appelée Christine Andy.
La relation semblait vraiment réelle. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose de suspect.
Il se présente comme un aristocrate bien éduqué. Et une fois que les gens commencent à y croire, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à chercher à leur soutirer de l'argent.
L'escroquerie consistait à se faire passer pour un membre de la dynastie des Rothschild. Des experts, comme la psychologue médico-légale Kerry Den, expliqueront, étape par étape, comment il est parvenu à ses fins.
Cet homme ne semble avoir aucun scrupule, aucune morale.
Comment un parfait inconnu peut-il s'infiltrer dans votre vie et la détruire de l'intérieur, financièrement et émotionnellement?
Avec le recul, je me demande si j'ai vraiment fait ça. Ai-je vraiment cru et fait confiance à ce point?
Le 23 juin 2003 était un lundi matin comme les autres à Cheltenham, pour Christine Andy, mère de trois enfants et nouvellement célibataire.
C'était un lundi matin, j'avais déposé mes enfants à l'école et je me rendais au travail. Mais j'avais une heure de libre. J'ai donc décidé de m'arrêter et de prendre un café. Je me suis assise avec le journal. Quelqu'un s'est approché et m'a demandé s'il pouvait se joindre à ma table. J'ai dit oui et j'ai continué à lire mon journal. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que toutes les autres tables étaient vides et qu'il était venu me parler. Il m'a dit qu'il m'avait remarqué à plusieurs reprises et qu'il me trouvait intéressante.
Désolé, je suis Alexander.
Et la conversation se poursuit entre Christine et le mystérieux monsieur.
Il m'a dit qu'il s'appelait Alexander Darriken. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que j'allais au travail. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il venait à Cheltenham, parce qu'il fait toujours ses opérations bancaires le lundi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a dit qu'il était consultant financier. Je l'ai pris au mot. Il avait le profil d'un consultant financier. Il était très bien habillé. Vous savez, il avait sa mallette.
Et Alexander Darriken s'est intéressé à Christine et à sa vie.
Je lui ai dit que j'y allais tous les lundis, que je prenais un café sur le chemin du travail. Le lendemain, c'était l'anniversaire de mon fils et j'étais donc pressée de partir. Je n'ai donc pas passé beaucoup de temps à discuter avec lui. 10 minutes et je suis partie. Je ne pensais pas le revoir. Je voulais simplement être polie avec lui.
Cette rencontre a été très organique, très naturelle. Vous rencontrez un inconnu qui s'intéresse à vous dans un café. Vous savez, cela semble assez inoffensif, n'est-ce pas? Je ne pense pas que la plupart des gens penseraient « Oh mon Dieu, cet homme pourrait être un criminel » et les alarmes commenceraient à retentir.
Autour d'une tasse de café avec un inconnu, Christine avait innocemment évoqué sa routine du lundi matin et il l'avait écoutée.
Lorsque je suis revenue le lundi suivant, il était assis là et m'attendait. Je l'ai rejoint et nous avons discuté. J'ai parlé de ma vie, des enfants et du fait que j'étais en train de divorcer. Il s'agit d'avoir une conversation, d'apprendre à connaître quelqu'un.
Comme il s'agit de la deuxième rencontre, il y a un sentiment de familiarité. Vous vous sentez en sécurité. Vous êtes dans un lieu public. Ce n'est pas votre ami de toujours, mais c'est quelqu'un que vous avez l'impression de connaître. Et vous avez plus de chances de le connaître un peu plus. Vous baissez votre garde.
Christine apprécie la compagnie des Alexander Darriken, mais elle est en pleine procédure de divorce. Et la romance ne l'intéressait pas.
Je ne cherchais pas de relation à l'époque. Je commençais à peine à trouver mes marques, à vivre la vie d'une mère célibataire. Parce que cela prend beaucoup de temps avec trois enfants.
Mais l'homme que Christine avait rencontré était charmant, gentil et fascinant.
Il m'a dit qu'il était l'un de ses enfants des années 70. Il avait 15 ans, et c'était un jeune homme de 15 ans très intelligent, et il a été placé à Oxford. Et c'est quelque chose que j'ai lu. Il m'est apparu comme quelqu'un de très intelligent. Intéressant, il a parlé de sa carrière. Il a travaillé pour des banques à Londres. C'était vraiment un homme très accompli.
Mais en réalité, cet homme très accompli était en fait un escroc très doué.
Il lui transmet lentement et régulièrement des informations. Il construit donc cette mythologie d'une manière très convaincante. Il s'agit d'une préparation très efficace. C'est une manipulation très efficace. Et donc, avec le temps, il va l'avoir exactement là où il veut.
Mais Christine n'aurait jamais pu imaginer que l'homme qu'elle n'avait rencontré que deux fois continuerait à détruire sa vie de la manière la plus cruelle qui soit.
Quelqu'un entre dans votre vie et vous vole 3 années.
En juin 2003, Christine Andy, mère célibataire récemment séparée, a rencontré par hasard un homme appelé Alex dans son café local. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle était manipulée par un escroc nommé Mark Hatton, qui avait déjà purgé une peine de prison pour escroquerie. Après 2 rencontres, l'escroc est prêt à passer à l'action.
Lors de la 3e rencontre, je suis venue et il m'a offert un café. Le café était posé sur la table pour moi. Nous avons discuté. C'est à ce moment-là qu'il m'a demandé s'il pouvait avoir mon numéro de téléphone. J'ai refusé. Il a semblé très offensé par cela. Puis il s'est retourné et a dit, « Eh bien, je vais vous donner le mien alors. Et si vous voulez m'appeler, on pourrait aller boire un verre. »
Et la manipulation de l'escroc a fonctionné.
Je me suis sentie coupable, je ne sais pas pourquoi. Je ne lui faisais pas confiance. Donc je lui ai donné mon numéro. Et au moment où j'arrivais au travail, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait été ravi de me rencontrer et qu'il aimerait m'inviter à boire un verre. J'ai répondu que j'y réfléchirais.
Et la quête romantique se poursuit.
Il m'a appelé une 2e fois et m'a dit, « Sortons dîner. » Je ne me sentais pas en sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me sentais pas en sécurité à l'idée d'aller dîner avec un homme que je ne connaissais pas, le soir. J'ai donc proposé d'aller déjeuner ou de prendre un verre en début de soirée.
Christine ne se doutait pas qu'elle avait un rendez-vous avec un escroc.
Au premier rendez-vous, nous sommes allés dans un petit bar à vin. C'était dans un sous-sol et c'était un soir d'été. Nous étions en train de discuter. Il a soudain présenté son passeport, ce qui m'a semblé très étrange. Et il m'a dit, « Oh, je voulais te le montrer. »
Le passeport a révélé que le rancard de Christine était un membre de la famille Rothschild.
Il s'appelait Dr. Alexander Mark Alphonsus Nathaniel de Rothschild d'Arriken Hatton. C'est tout un programme, n'est-ce pas? C'est ce qui figure sur son passeport.
En réalité, l'escroc s'appelait Mark Hatton. Et personne ne sait comment il a pu obtenir un passeport avec ce nom fictif. Mais il voulait faire croire à Christine qu'il était Alexander de Rothschild, membre de l'illustre dynastie bancaire. Christine ne se doutait pas que l'histoire de Mark Hatton était un hameçon éprouvé pour attirer ses victimes dans son escroquerie.
L'histoire qu'il racontait sur sa filiation disait qu'il était le fils illégitime d'Edmond de Rothschild et d'une femme du nom de Christina Ung. Il avait été adopté alors qu'il était un jeune garçon. C'est ainsi qu'il a été ramené au Royaume-Uni.
L'histoire des Rothschild de Hatton mêle le glamour et le mystère au rejet, au chagrin d'amour et à l'abandon.
C'était un homme très émotif. Et il a fait semblant d'être très blessé par ses origines familiales. Et c'était une bonne tactique, quand on y pense, parce qu'elle vous empêche de poser des questions.
Christine pense déjà que Hatton, ou Alex comme elle l'appelle, est quelqu'un de gentil, d'attentif et d'attentionné. Mais aujourd'hui, il s'appuie sur cette expérience et se présente comme un homme très exotique. Et surtout, très vulnérable sur le plan émotionnel. Je suis donc certaine qu'elle a ressenti une certaine affinité avec lui, parce qu'elle venait de divorcer. Mais en présentant cette fausse histoire de lui-même, il rendait ses tentatives de manipulation de plus en plus probables et pourrait éventuellement lui prendre son argent.
Mark Hatton n'a aucun lien avec la famille Rothschild. Et malgré le grand geste du passeport, l'histoire des Rothschild n'était pas la raison pour laquelle Christine était attirée par son rencard.
Il était très charmant, très gentil et très humble. Pardon, je souris. J'ai du mal à faire le lien entre les deux aujourd'hui. Mais oui, je pense que c'est ce que j'ai aimé chez lui. Il avait l'air d'une grande gentillesse.
Il pratique l'escroquerie à l'amour. Une escroquerie à l'amour est une escroquerie qui consiste à faire tomber quelqu'un amoureux de soi. Il s'agit de l'escroquerie la plus cruelle, car vous vous retrouvez non seulement avec un compte bancaire vide, mais aussi avec un cœur brisé.
Et Christine s'est fait piéger par l'escroc. De nombreux autres rendez-vous ont suivi le premier.
Je l'ai beaucoup vu. Il téléphonait beaucoup. Les appels ont joué un rôle important dans notre relation. Il appelait jusqu'à 20 fois par jour.
Ils ont également passé de plus en plus de temps ensemble.
Il venait, nous passions la journée ensemble. Les enfants étaient à l'école, nous passions la journée ensemble. Nous sortions pour déjeuner. Puis il disparaissait pendant quelques jours. Je dois aller à Londres pour des réunions. Je dois obtenir un parrainage pour la London Business School.
En réalité, Hatton semait les graines de son escroquerie, combinant la romance avec son discours sur la London Business School. Christine Andy a été préparée à son insu.
Quelques mois après le début de notre relation, nous sortions régulièrement. Il avait rencontré mes enfants, ils étaient allés au cinéma. J'ai rencontré sa sœur pour un café. Il avait rencontré des amis à moi. Cela semblait être une relation normale.
L'escroc jouait le rôle du partenaire idéal qui était tombé amoureux de Christine.
Il était très impliqué. Il n'avait jamais vu une femme comme moi. Et il m'aimait. Il voulait que je sois sa femme. Et je me disais que ça allait un peu vite. Il disait à quel point il voulait se marier et fonder une famille. Et il ne me l'a jamais demandé. Il n'a jamais dit « Veux-tu m'épouser ?» Il a simplement dit que nous allions nous marier.
L'escroc a convaincu Christine qu'il l'aimait. Hatton prétendait également avoir une place à la prestigieuse London Business School pour y faire une maîtrise en gestion. Mais il avait du mal à trouver des financements pour le diplôme.
Depuis quelques mois, je le voyais partir à Londres, essayant d'obtenir un parrainage pour sa London Business School. Il revenait et il était découragé. Il n'a pas pu réunir l'argent nécessaire, et la situation n'allait pas mieux. Et je pense que cela a commencé en septembre. Lorsque nous sommes arrivés au mois de novembre, il semblait complètement abattu. Il espérait pouvoir commencer le diplôme en janvier. Le temps lui manque.
Un autre mensonge est venu s'ajouter au déboire fictif de la London Business School. Un mensonge qui laissait entendre qu'une fois que Alexander de Rothschild aurait obtenu sa maîtrise, l'avenir du couple serait radieux.
L'histoire raconte qu'il a été recruté. Cette banque en Suisse lui avait offert un emploi. Il les retenait en quelque sorte. Il n'était pas sûr de vouloir retourner dans le secteur bancaire. Les mois ont passé. Il a fait quelques voyages à Genève. Il s'y rendait pour des entretiens et pour rencontrer le conseil d'administration. Ils étaient très enthousiastes à l'idée qu'il les rejoigne.
L'emploi de toute une vie en Suisse dépendait de la maîtrise de la London Business School. Mais le voyou de Rothschild prétendait qu'il ne pouvait pas obtenir le financement nécessaire. Mark Hatton avait créé un réseau complexe de mensonges et avait lentement mais sûrement piégé Christine.
Je pense qu'en octobre, j'ai commencé à me dire que j'aimais vraiment ce type. Il ferait n'importe quoi pour moi. Il est si gentil avec moi, et les enfants semblent l'aimer quand ils le voient. Il a ensuite commencé à dire qu'il voulait avoir une famille à lui. Et j'ai dit que je ne voulais plus d'enfants. J'avais 38 ans à l'époque. J'ai alors commencé à entendre des larmes sur le fait qu'il est manifestement le fils illégitime d'Edmond de Rothschild. Il a donc été adopté. Il n'a pas de vraie famille. Il voulait une famille à lui. Le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, c'était un enfant.
En réalité, il y avait un autre cadeau que l'escroc désirait plus qu'un enfant.
C'est aussi à cette époque qu'il a dit « Il faut vraiment que j'entre à la London Business School. Peux-tu m'aider ?» Et il semblait vraiment déprimé, au point de s'asseoir et de pleurer en disant que c'était si difficile. Vous savez, dès qu'ils se rendent compte que je suis un de Rothschild, ils supposent que j'ai l'argent nécessaire pour suivre le cours. J'ai dit que je n'étais pas en mesure de l'aider, car le règlement de mon divorce n'était pas encore définitif. Mais il savait que tout cela se passait en arrière-plan.
Le passeport, l'histoire des Rothschild, le travail en Suisse, les histoires de la London Business School et les innombrables « Je t'aime » des 6 derniers mois avaient conduit Christine à ce point. C'est ce à quoi Mark Hatton a travaillé. Il avait fait le travail de base et voulait maintenant voir un retour de 75 000 livres.
Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, et il m'a répondu que si. J'ai répondu que je n'avais pas d'argent, et il a dit « Oui, mais tu as ta maison. »
J'ai besoin d'argent.
Je n'ai pas d'argent, je te l'ai dit.
Y a-t-il un moyen d'obtenir un financement pour ta maison ?
Parce que nous allions, à ce stade, parler de nous marier, et il y a ce travail en Suisse. Il faudra vendre la maison dans un an ou deux. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. J'ai hypothéqué la maison et je lui ai prêté l'argent pour le cours. Lorsque je lui ai remis l'argent, c'était en décembre 2003. Tout semblait normal. En janvier, il est entré à la London Business School. Il avait tous ses livres, ses valises et ses ordinateurs.
À aucun moment, il ne s'est inscrit à un cours ou n'a payé pour des cours à la London Business School. Les relevés bancaires montrent clairement que lorsque cette somme est versée sur son compte, il se lance dans des dépenses massives, achetant des biens somptueux et des vêtements de marque.
Hatton a dépensé chaque centime, mais il y avait encore de l'argent à extraire de Christine. Et le cruel escroc n'était pas prêt à renoncer à son escroquerie romantique avant d'avoir tout pris.
Pour Christine Andy, il n'y a pas eu de signes avant-coureurs indiquant que Hatton se servait d'elle. Lorsque nous sommes amoureux de quelqu'un, il se produit un effet de halo. Vous ne voyez que le bon côté de votre partenaire et vous ignorez les mauvaises choses. Mais il est intéressant de noter que Christine n'a pas été la seule à se faire avoir par Hatton. Ses amis et sa famille ne pensaient pas non plus qu'il y avait quelque chose d'anormal avec cet homme, même s'il ne voulait pas emménager avec elle.
Mark Hatton n'a jamais emménagé avec Christine, car il avait besoin de tranquillité pour sa maîtrise fictive. Mais il a convaincu Christine qu'il vivrait avec elle lorsqu'ils fonderaient une famille ensemble.
À ce moment-là, je me dis que j'aime cet homme et que nous allons nous marier. Et il ne demande que ce que les autres veulent lorsqu'ils sont en couple. Et j'ai eu 3 enfants de mon mariage, donc je ne peux pas lui refuser le droit d'être père si nous sommes mari et femme. J'ai donc succombé à sa manipulation.
En mars 2004, Christine a découvert qu'elle était enceinte de l'escroc.
Le jour où j'ai appris la nouvelle, je lui ai téléphoné, pensant qu'il allait être très excité. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je suis enceinte. Et il y a eu un silence total. Alex, tu es là ? Et j'ai peur, parce que je me dis que c'est ce qu'il voulait. Je me suis sentie confuse et je lui ai dit, « Mais ce n'est pas ce que tu voulais ?» Si, si, je suis un peu abasourdie. Je suis enthousiaste, oui. Et il a dit, « Je ne m'y attendais pas. » Il a vraiment couvert ses traces, je le vois maintenant. Puis il a dit, « Je viendrai te voir, je viendrai te voir. » Et je me dis qu'il est content. Ah bien, enfin, il est content. Il a mis 2 jours à venir me voir. Et j'ai été un peu déconcertée. Pourquoi ? Oh, j'ai été tellement occupée et tu sais, j'y ai réfléchi et j'ai essayé de digérer le fait que je vais être papa et que nous allons avoir une famille.
Nous allons avoir un bébé.
On ne saura jamais avec certitude si le souhait de Mark Hatton d'avoir un bébé avec Christine était un bluff jamais assumé. Enceinte, Mark Hatton a cruellement placé Christine dans la position la plus vulnérable que l'on puisse imaginer. Et il profitera sans pitié de ce pouvoir. Il faudra encore 2 ans de mensonges sans cœur et de promesses vides pour que le monde de Christine s'écroule. Et elle apprendra la vérité choquante et malsaine sur le père de son enfant. Mère célibataire de 3 enfants, Christine Andy entretenait une relation avec Alexander de Rothschild depuis l'été 2003. L'escroc, qui s'appelait en réalité Mark Hatton, l'avait déjà dupé à hauteur de 75 000 livres en lui faisant croire qu'il l'aimait. En 2004, elle pensait avoir fait de lui l'homme le plus heureux du monde lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de lui.
Il disait qu'il allait emménager. Il est évident que tu es occupé avec les trois autres enfants et que je t'aiderai. Ne soulève pas ceci et laisse-moi faire cela. Et je serai là mercredi. Et je changerai les ampoules pour toi. Le mercredi arrivait et je devais les changer moi-même. Et je devenais toujours plus grosse. Et je continuais à sortir les sacs poubelles de la cuisine, parce que personne d'autre ne m'aidait. Et c'est devenu assez difficile. Et cela a posé un problème dans notre relation parce qu'il disait qu'il serait là. Et qu'il ferait des choses pour moi. Et je me retrouvais tout le temps seule avec trois enfants. Et très enceinte. Alex, peux-tu me parler? J'ai besoin d'aide.
Et en cas de problème, Mark Hatton a su manipuler Christine de manière détournée, s'assurant ainsi un contrôle total.
Il se retournait contre moi en disant « Oh, mais je fais ça pour notre avenir. Il faut être plus compréhensive. Ne sois pas si égoïste. » Il me disait souvent que j'étais hystérique. À tel point que je me souviens avoir pris le téléphone un jour et avoir appelé ma sœur en lui disant « Dis, me décrirais-tu comme une femme hystérique ?» Elle m'a dit « Tu es la personne la moins hystérique que je connaisse. » Mais c'est comme un ver dans la tête d'être avec quelqu'un comme lui. Il alimente ces petites bribes et les répète suffisamment souvent pour que vous commenciez à douter de vous.
Mark Hatton aveuglait Christine avec des jeux d'esprit manipulateurs pour lui soutirer des milliers de livres. Mais l'image d'un père de famille travaillant dur dissimulait aussi la double vie qu'il menait.
Au cours de leur relation, il n'a jamais vécu avec Madame Andy. Il a été établi qu'il vivait en fait avec une autre femme à Cirencester pendant la majeure partie de cette période. Il considérait Madame Andy comme un ticket repas. Et il la courtisait uniquement pour des raisons financières.
L'escroc a tout promis à Christine, mais n'a rien fait. En fait, lorsque Christine a accouché du fils de Hatton, Marcus, l'escroc était introuvable. Et lorsqu'il s'est finalement présenté, Hatton a même profité de l'occasion pour se faire de l'argent sur le dos d'une Christine épuisée.
Quand j'y repense aujourd'hui, cela me fait rire. Il est arrivé avec un bouquet de fleurs qu'il avait acheté à l'hôpital avec l'emballage plastique autour. Et il me les a donnés. Il a tenu son fils et il a pleuré, et tout cela semblait normal. Je suis sortie, je me suis rafraîchie et je suis revenue. Il était sur le point de partir. Il a dit, je vais aller en ville. J'ai besoin d'acheter quelques petites choses pour toi et Marcus. Et il a dit, oh, mais par hasard, tu n'aurais pas 20 livres? Il m'a répondu qu'il n'avait pas d'argent pour payer ses fleurs. Il m'a dit que je devais les payer à la sortie. Non seulement je venais de donner naissance à son fils, mais je devais aussi payer mes propres fleurs. Lorsque Marcus est né, il est resté chez moi pendant 2 nuits, je crois, ou peut-être 3 nuits. Et encore une fois, avec le recul, il était impatient de partir.
Comment quelqu'un peut vivre avec une personne, être intime avec elle, avoir un bébé avec elle et créer une vie qui ne repose en fait que sur son désir de lui soutirer de l'argent? Kerry Den, consultante, psychologue médico-légale. Je pense que cela indique que Hatton est un psychopathe parce qu'il n'a manifestement aucune empathie. Il est émotionnellement daltonien, si l'on peut dire. Il ne peut tout simplement pas ressentir ce qu'il fait à Christine, car s'il le pouvait, il n'en serait pas capable.
Christine devait s'occuper d'un bébé et de 3 autres enfants. La nouvelle maman était épuisée et vulnérable. Et Mark Hatton a entamé la prochaine étape de son escroquerie en juin 2005.
Il s'est présenté à la maison, complètement paniqué. Il avait l'air totalement pris au dépourvu. Il avait peur, il était émotif, il pleurait beaucoup. Et je lui demande ce qui se passe. Il me dit qu'il lui avait réclamé une facture fiscale de 80 000 livres. Il n'arrêtait pas de parler et il était hors de lui. Il m'a dit qu'il fallait vraiment que je l'aide. Je lui ai dit, je ne pouvais pas réunir une telle somme. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je vais devoir quitter le pays. Et je me disais, super, je suis là avec ton fils et il va s'envoler. Je ne pouvais pas le laisser faire. J'ai senti que je devais l'aider. Sinon, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai dit que je ne pouvais pas réunir une telle somme d'argent. Je peux en obtenir 50. Et il m'a dit, ce qui était rassurant, un peu rassurant, qu'il pouvait obtenir les 30 autres.
Christine avait déjà prêté 75 000 livres à Hatton en décembre 2003 pour couvrir les frais de sa fausse maîtrise. En juillet 2005, elle lui a prêté 50 000 livres supplémentaires pour régler sa facture fiscale fictive. Tout l'argent a été gaspillé en luxe et dans des boutiques de créateurs.
Tout au long de leur relation, Anton avait parlé de s'installer en Suisse avec Christine. Il a ensuite entrepris de persuader Christine de vendre sa maison, arguant du fait que lorsqu'il reprendrait son emploi dans la banque suisse, il devrait déménager rapidement. Il serait donc préférable qu'elle vive dans une location.
Il a commencé à dire qu'il allait vendre sa maison et que je devrais mettre la mienne sur le marché. Et cela m'a effrayée, car j'avais un nouveau-né. Et je me demandais si je pourrais passer par toutes les étapes de la vente d'une maison et déménager ailleurs. Mais il disait que c'était important. Il voulait pouvoir partir très vite. Si j'étais en location, nous n'aurions qu'à faire nos valises et partir.
Il s'agit d'une tactique intéressante de sa part, car il s'agit en quelque sorte d'une victoire émotionnelle. C'est le moment où l'on incite une personne qui a déjà investi dans une certaine mesure à investir encore plus. Et à ce stade, n'oubliez pas que Christine a vraiment besoin qu'il dise la vérité. Les conséquences de son imposture sont trop horribles pour être envisagées. C'est ainsi qu'il bénéficie de cette situation.
C'est au cours de l'été 2005 qu'il m'a convaincu qu'il était temps de le financer. Je pense que nous étions censés partir en janvier 2006. J'ai donc vendu la maison, j'ai déménagé à Cirencester et je me suis dit que j'y étais arrivé au mois d'août. Je pense donc que dans quelques mois, en janvier, nous partirons en Suisse.
Le déménagement dans une location était temporaire pour Christine. Une fois de plus, Anton n'a jamais emménagé avec elle. Mais éloigner Christine de la sécurité de Cheltenham ne signifiait pas seulement qu'elle vendait sa maison de 500 000 livres. Mais aussi que pour la première fois dans leur relation, Christine est vraiment à sa merci.
Il m'a aidé à choisir la maison, et la maison est très isolée. Et bien sûr, lorsque vous vivez à l'extérieur, vos amis de Cheltenham ne vont pas simplement passer prendre une tasse de café, comme ils l'ont fait ici. La porte était ouverte, la bouilloire était allumée. Je me suis donc retrouvée très isolée, ce qui était idéal pour lui.
Isolée, Mark Anton a entrepris d'escroquer la mère de son enfant pour lui soutirer plus d'argent. Maintenant que Christine a vendu sa maison, elle dispose d'une somme importante sur laquelle Anton est bien décidé à mettre la main. Il utilise son personnage de conseiller financier.
Le 12 septembre, je lui ai demandé d'investir 105 000 livres en mon nom auprès de la banque Pictet. Eh bien, il a suggéré la banque Pictet, car je n'en avais jamais entendu parler. Mais il investissait quand même. Il me restait encore un peu d'argent de sa part. Je ne lui ai pas tout donné. Et le 13 septembre, j'ai découvert tout récemment qu'il s'était acheté une BMW flambant neuve avec l'argent.
Bien que tordu et inhumain, Mark Anton a manipulé Christine de manière experte dès leur première rencontre en 2003. Plus de 2 ans plus tard, l'escroc a soutiré à sa proie la quasi-totalité de son argent en lui faisant une série de promesses creuses. Et l'incroyable extrême d'engendrer un enfant, simplement pour rendre son escroquerie crédible.
Il a dit à Christine Handy qu'il avait trouvé un emploi dans une banque suisse et qu'ils allaient déménager en famille en Suisse. Mais il ne pouvait pas lui dire pour quelle banque, car c'était top secret jusqu'à ce que la nouvelle soit publiée dans le Financial Times. C'est ainsi qu'il lui a de nouveau fait miroiter la promesse d'une nouvelle vie en Suisse.
À ce stade, Christine se trouve vraiment dans une situation impossible. Elle a tout investi dans cet homme. Elle a tout investi sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Elle a une vie avec cet homme. Elle a un enfant avec cet homme. Elle ne voudra pas le perdre. Elle ne veut pas prendre ce risque.
Avec le recul, je me demande si j'ai vraiment fait ça. Ai-je vraiment cru et fait confiance à ce point? J'ai franchi tous les obstacles qu'il avait mis en place pour moi, pour que je puisse former une famille et être avec lui. Et pourtant, rien ne se concrétisait. Toutes les choses qu'il a dit qu'il allait faire ne se sont pas produites.
Le déménagement en Suisse en janvier 2006 est passé avec de nouvelles excuses et de nouveaux mensonges. Christine s'est retrouvée seule et isolée de ses amis de Cheltenham.
C'était mon moment le plus sombre. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Que se passe-t-il? Et j'ai eu l'impression de perdre le contrôle de la réalité, de ma vie. Je me souviens avoir pensé que cela devait cesser. La seule façon de reprendre le contrôle de la situation était de retourner à Cheltenham, auprès de mes amis et de ma famille. Et c'est surprenant que j'ai eu le courage de me lever et d'aller reprendre le contrôle de ma vie.
La relation devenait tendue. Mark Hatton a presque tout pris à Christine, et elle voyait de moins en moins l'escroc. Mais en croyant les mensonges qu'il avait laborieusement inventés au cours des trois dernières années, Christine pensait que leur relation valait toujours la peine d'être sauvée.
Évidemment, il y a eu des jours où je me suis demandé ce que je faisais avec lui. D'autres jours, je voyais l'homme que j'avais rencontré et je me disais que c'était pour ça que j'étais avec lui. C'est pourquoi nous avons un enfant ensemble, et j'étais toujours prête à travailler sur notre relation.
Mais en juin 2006, l'escroc a commis une erreur catastrophique en emmenant Christine chez son frère. Et Christine s'est bien entendue avec la belle-sœur de Hatton.
Je lui ai dit, « Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre un café avec moi ?» Et juste après, Alexander demande, « Pourquoi l'as-tu invité à prendre un café ?» Et j'ai répondu, « Parce que je l'aime bien. Cela semble être une chose amicale à faire, et puis, elle sera ma belle-sœur un jour. Je n'ai pas confiance, et il n'a vraiment pas aimé ça. » Et j'ai dit, « Eh bien, elle vient. » Et je lui ai dit quand elle arrivait. Le jour où elle devait arriver, c'est-à-dire le jour où il était normalement à Londres, environ une demi-heure avant son arrivée, il s'est présenté. Il est resté assis tout le temps. À l'époque, j'ai trouvé cela un peu bizarre. Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ? Cela ne me dérangeait pas, parce que c'est mon partenaire. Et c'est juste qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. Et il est resté tant qu'elle était là.
Je n'ai pas confiance.
J'ai eu une grosse dispute avec lui ce soir-là parce qu'il est venu et a dit « Je ne veux pas d'elle ici ». Il disait qu'ils avaient toujours eu des problèmes avec elle. J'ai répondu qu'il ne peut pas me dire qui je devais choisir comme ami. « Eh bien, si tu m'aimes et que tu me respectes, tu fais ce que je te demande. » Et finalement, il est parti. Je me suis dit qu'il fallait que je l'appelle pour lui dire qu'il y avait un problème. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, mais je ne voulais pas aggraver les choses.
Christine était loin de se douter que lorsqu'elle passerait ce coup de fil à la belle-sœur de Hatton plus tard dans la semaine, son monde serait complètement détruit.
« Bonjour, c'est Christine. J'ai téléphoné et je lui ai dit, et c'est alors qu'elle m'a demandé si j'étais impliquée financièrement avec lui. J'espère que vous ne lui avez pas donné d'argent. » Elle a dit, « S'il est un de Rothschild, mon mari est Mickey Mouse. » Et je me disais, « Vous savez, mon Dieu, c'est vraiment la panique. » À ce stade, il était censé être à Genève. Je ne pouvais pas lui parler de ce qu'elle avait dit. Et j'ai dû ressasser les informations qu'elle m'avait données pendant 3 jours.
La belle-sœur de Mark Hatton a raconté à Christine comment il avait déjà escroqué une femme en Italie ainsi que son propre frère.
Je ne savais pas qui croire. Et finalement, il m'a appelé pour me dire qu'il revenait de Genève. Je lui ai donc expliqué ce qu'elle avait dit. Et il est devenu fou. Je te l'avais dit. C'est une menteuse. Comment oses-tu ? Tu n'es pas fiable. Tu ne fais pas ce que je te dis. En fin de compte, je ne savais pas quoi croire. Vous savez ? C'était juste, je me sentais comme dans un état de panique constant.
Après ce coup de fil, Christine n'a pas revu l'homme qui lui a dit être un de Rothschild. Il a disparu, et elle est restée dans l'incertitude. Christine a désespérément besoin de savoir si son partenaire est en fait un escroc. Et si elle allait un jour être remboursée des centaines de milliers de livres qu'elle lui avait prêtés. Après des mois d'efforts frénétiques pour le contacter, Hatton s'est finalement présenté à la porte de Christine.
La dernière fois que j'ai vu Alexander, c'était le 22 novembre 2006. Quand il était à la porte et a dit, « Je pense que tu devrais retourner avec ton ex-mari jusqu'à ce que tout soit terminé. » Mon ex-mari, pourquoi ? Je pense que j'étais juste stupéfaite. Je ne savais pas par où commencer.
Mark Hatton ne veut pas admettre qu'il a escroqué Christine, mais il la supplie de ne pas aller à la police. Il a promis de rembourser l'argent dans les 6 mois à venir. L'horrible vérité devenait évidente.
Alex.
Découvrir au bout de 3 ans qu'en fait, on a vécu dans un fantasme. Et ce n'est pas votre fantasme que vous avez choisi, ça doit être absolument dévastateur. Christine aurait dû intégrer le fait qu'elle avait non seulement perdu sur le plan financier, mais aussi perdu l'une des personnes les plus importantes de sa vie.
Je ne savais pas vers qui me tourner ni à qui parler. Je craignais de ne plus avoir d'argent et de ne pas pouvoir payer mon loyer. Je me suis donc rendue au Citizens Advice Bureau pour savoir comment je pouvais continuer à vivre et à m'occuper des enfants. Je me suis rendue au poste de police et j'ai parlé à un officier de police, l'agent détective Arkell.
En décembre 2006, Christine Hendy s'est présentée au poste de police pour signaler qu'elle pensait avoir été escroquée d'une importante somme d'argent par M. Hatton, qu'elle connaissait à l'époque sous le nom d'Alexander de Rothschild. La difficulté réside dans le fait qu'ils étaient en couple. Dans le cadre de relations normales, les gens s'offrent des cadeaux et se prêtent de l'argent. La difficulté était donc de prouver qu'il l'avait trompée pour obtenir tout ou une partie de l'argent qu'elle lui avait donné. C'est pourquoi nous avions besoin de preuves documentaires pour pouvoir prouver que ce qu'il lui avait dit était en fait un mensonge.
J'ai alors réalisé à quel point il était un petit personnage évasif. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de travail à faire pour pouvoir leur donner un dossier exploitable. J'ai également dû chercher des moyens de récupérer mon argent et j'ai donc décidé de le mettre en faillite.
Christine a réussi à faire déclarer Hatton en faillite en juillet 2007, ce qui a permis d'examiner ses comptes de prêt. Et dès que la police a pu comparer les relevés bancaires de Christine avec ceux de Mark Hatton, on a su exactement ce qu'il avait fait de l'argent.
Dès que l'argent était versé sur son compte, il se lançait dans ce qui semblait être une frénésie de dépenses massives, principalement dans des endroits tels que Bond Street, Harrods, Ralph Lauren ou des boutiques de grands couturiers. Et il dépensait des milliers de livres par jour. Et ce schéma de dépenses se poursuivait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent, et que son compte était à nouveau dans le rouge.
Il y avait un dossier solide contre Mark Hatton, mais l'homme s'était volatilisé.
Il a été recherché par la police. Des enquêtes ont été menées auprès des compagnies aériennes afin de déterminer s'il avait quitté le pays. Mais dans le même temps, Mme Hendy avait créé un site web appelé youbetrayedme.com. Je pense qu'elle l'avait créé pour avertir d'autres femmes de ce qui lui était arrivé.
Christine s'est fait arnaquer de la pire façon qui soit, mais elle n'est pas prête à jouer le rôle de la victime. Plutôt que de s'avouer vaincue, Christine Hendy s'est battue.
Je devais donc faire connaître mon histoire pour partager son profil. Ainsi, je pourrais savoir si quelqu'un l'a vu, il pourrait m'avertir et avertir d'autres femmes s'il faisait la même chose à Londres ou ailleurs.
Elle voulait en fait reprendre un peu le contrôle. Elle voulait pouvoir retrouver un peu d'estime de soi. J'imagine que c'est pour cette raison qu'elle s'est donné tant de mal pour se défendre.
Le site web étant opérationnel, Christine n'avait plus qu'à attendre.
J'ai reçu plusieurs courriels de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient désolés. Et puis un jour, j'ai reçu trois courriels provenant tous de la même famille à Mount Kisco, New York, disant qu'il était là et qu'il faisait la même chose.
La famille s'était inquiétée du fait que le Rothschild illégitime avec lequel vivait la riche divorcée n'était pas celui qu'il prétendait être.
Le fils a commencé à se méfier de lui, a entré son nom dans un moteur de recherche et a trouvé le site web de Mme Hendy. Il a contacté Mme Hendy pour lui dire que cet homme vivait avec sa mère dans sa maison très chère de New York.
Nous avons donné sa localisation à la police. Ils ont répondu que nous devions demander un mandat d'arrêt international et un ordre d'extradition, et qu'entre-temps, il serait passé à autre chose.
Et ce n'était pas une option pour Christine. Elle s'est rendue à New York avec une amie en soutien moral. Armée des documents relatifs à la faillite, elle est déterminée à affronter l'escroc.
Lorsque nous sommes arrivés à New York, nous avons pris rendez-vous avec Jill Alber, le détective privé que nous avions engagé pour le mettre sous surveillance.
Le détective privé a emmené Christine dans une salle de sport locale où Hatton se rendait tous les matins.
Nous l'avons vu sortir en short, je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers lui. Je lui ai dit, « Tu te souviens de moi ?» Il m'a regardé et m'a dit, « Ne fais pas ça, Chrissy. » Encore une fois, j'étais déconcertée et je me suis dit, « Faire quoi ? Je n'avais rien fait. J'essaie juste de te faire répondre à quelques questions. » Il est parti et j'ai crié, « Voilà les papiers de la faillite, je les mets sur le pare-brise quand tu voudras sortir. »
Mark Hatton sait désormais qu'il n'a pas battu Christine. Quelques jours plus tard, elle découvre qu'il a été arrêté par le FBI.
Oh mon Dieu, c'est une excellente nouvelle.
Mais Christine était loin de se douter qu'au Royaume-Uni, un autre mandat d'arrêt avait été délivré à l'encontre de Hatton, et que cette accusation était encore plus malsaine et tordue que l'enfer qu'il lui avait fait vivre.
Cela a mis mon monde sens dessus-dessous. Cela a été très difficile. Je me suis sentie tellement coupable par simple association.
En avril 2008, Mark Hatton a été extradé des États-Unis vers le Royaume-Uni. Pendant 3 ans et demi, il a fait croire à Christine Andy qu'elle était sa partenaire. Elle a eu son enfant, lui a prêté des centaines de milliers de livres et lui a fait confiance. Cependant, la façon odieuse dont Mark Hatton avait traité Christine a été éclipsée par de nouvelles allégations.
Monsieur Hatton a été accusé de plusieurs délits de viol et d'agression sexuelle. En raison de la gravité de ces infractions, le procès pour ces questions a eu la priorité sur le procès pour fraude. Il a donc eu lieu en mai 2009. Il a été reconnu coupable de ces infractions.
Pendant que Mark Hatton manipulait Christine Andy, il vivait en fait avec une autre femme. Monstrueusement, Mark Hatton avait violé et abusé sexuellement la jeune fille de cette femme, alors qu'elle était âgée de 13 à 17 ans. Lorsque l'adolescente a eu 15 ans, l'escroc a payé pour qu'elle avorte son enfant. Au même moment, Christine Andy est enceinte de son fils, Marcus. Christine doit maintenant faire face à la réalité, elle n'a pas seulement invité un escroc dans sa maison et dans son cœur, elle a aussi invité un pédophile.
Le jour où il a été reconnu coupable de toutes les accusations de viol et d'attentat à la pudeur, mon monde a basculé. Cela a été très difficile. De un, parce qu'il était venu chez moi et que j'ai une fille. J'ai Marcus, et vous savez, comment protéger son fils, mon fils, de ça? Je me suis sentie tellement coupable par simple association. Je l'avais emmené à l'école de mes enfants. Il m'accompagnait lorsque je venais chercher les enfants. C'était difficile. Il m'a fallu quelques semaines pour m'y habituer et cela me perturbe encore aujourd'hui.
Je ne suis pas surprise que Mark Hatton ait commis des délits sexuels à l'encontre d'enfants en même temps qu'il escroquait Christine. Parce qu'il s'agit d'un homme totalement impitoyable. Il obtient ce qu'il veut, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il n'hésite pas à abuser des gens de manière intime. Il y a donc de nombreux parallèles entre les deux attaques. Bien qu'ils soient différents, ils sont en fait psychologiquement les mêmes. Il s'agit d'un homme qui prend ce qu'il veut sans se soucier de la personne à qui il prend ce qu'il veut.
Hatton a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle en mai 2009. Toutefois, la condamnation a été reportée à la fin du procès pour l'escroquerie insensible et cruelle dont Christine a été victime. En février 2010, le procès a commencé. Et Hatton plaidait non coupable.
J'étais terrifiée à l'idée d'aller au tribunal. Mais en même temps, j'ai réalisé que c'était ma chance de pouvoir me défendre et dire ce qui était vrai. Mais c'est le jour où le jury a délibéré. Je me souviens d'être assise à l'extérieur du tribunal et d'avoir pensé, « Oh mon Dieu, je m'étais tellement battue pour qu'il soit condamné, et s'il ne le déclarait pas coupable, tous ses efforts. » Ce fut un moment difficile.
Le 16 mars 2010, le verdict est tombé.
Je me souviens d'être là, lorsque le greffier leur a demandé s'il était coupable du premier chef d'accusation. Je les compte 1, 2, 3. Et je me suis dit, oh, Dieu merci, ils l'ont reconnu coupable des 7 chefs d'accusation de tromperie.
Mark Hatton a été condamné pour son escroquerie au Rothschild et reconnu coupable de 7 chefs d'accusation pour avoir obtenu des transferts de fonds par tromperie. Le 17 mars 2010, le monstre a été condamné pour tous ses crimes.
Le juge l'a condamné à 15 ans de prison pour le viol et à 3 ans pour la fraude. Il devait purger une peine de 18 ans au total. Cette condamnation a été plus importante que prévu.
J'ai été surprise. C'est long. Mais il a eu ce qu'il méritait.
Une fois Hatton derrière les barreaux et le cauchemar enfin terminé, Christine Andy a dû commencer à recoller les morceaux de sa vie.
Je pense que l'aspect le plus choquant de cette escroquerie est sa nature très intrusive. Non seulement cet homme est entré par la ruse dans la maison de cette femme, mais il s'est aussi emparé de son portefeuille. Et il a réussi à prendre son cœur par la ruse.
Il est difficile d'en parler aujourd'hui, à cause de ce que j'ai ressenti à l'époque et je réalise maintenant que c'est un mensonge total. Quelqu'un entre dans votre vie et vous vole 3 années.
Christine estime que le montant total que Mark Hatton lui a cruellement dérobé est de l'ordre d'un demi-million de livres. Depuis la faillite de Hatton, Christine n'a récupéré qu'une infime partie de cet argent. Mais elle a obtenu de lui une chose qu'elle apprécie vraiment.
Mon fils est le point positif, la seule chose positive qui en découle. Je me sens évidemment très protectrice à son égard, car je pense qu'il a été malmené dès son plus jeune âge. Et c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, n'est-ce pas? Grandir en sachant que son parent est une telle personne.
Christine NDM son fils inconditionnellement, mais son père, Mark Hatton, s'est infiltré dans sa vie, l'exploitant et l'abusant de l'intérieur.
Je suis victime d'un crime, mais je n'ai pas à me comporter en victime. Je fais évidemment moins confiance, mais en même temps, j'ai décidé que cela ne va pas me rendre cynique et amère.